magnifique avec le chamanisme, c'est que on se réconcilie avec le monde de l'imaginaire. Ce qui est très compliqué en Occident, en tout cas, c'est qu'on va vraiment séparer l'imaginaire de la vie concrète et matérielle. C'est ce qui donne des élèves qui, quand ils reviennent de leur voyage, ils ne savent pas s'ils étaient dans une réelle expérience chamanique ou s'ils ont tout imaginé. Alors en fait, c'est pas compliqué. L'imaginaire, c'est un bateau, c'est un véhicule. C'est l'imaginaire qui t'emmène en voyage. Je m'appelle Jam et j'initie les gens au voyage chamanique à Rennes, entre autres. Ça va faire 3 ans que je fais ça. Voilà. Moi, j'ai pas le droit de dire que je suis chaman. En fait, c'est les gens qui te reconnaissent en tant que tel. C'est interdit. Tu reconnais des vrais praticiens quand ils ne s'autoproclament pas chaman. On n'a pas à être dans cet ego de surmoi. C'est interdit. Voilà, si vous voulez un petit détail pour reconnaître les praticiens au chamanisme. Voilà. Donc toi, tu as le droit de me dire ça, mais pas moi. Pour moi.
Guy Maurechamp, vous êtes ethnologue. Et vous appartenez à l'école française d'Extrême-Orient et je crois que vous avez rencontré le chamanisme sur le terrain, en Thaïlande, au Laos et dans le Néo-Japon. Est-ce que vous pouvez nous renseigner ce soir sur le chamanisme? On ne peut pas dire que ce soit une religion. Qu'est-ce que ça peut être?
Non, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas un système religieux, c'est une technique.
Ah, c'est intéressant.
Essentiellement, c'est une technique de guérison. La meilleure définition qu'on ait pu donner du chamanisme est la suivante. C'est une technique archaïque de l'extase, une technique fruste, une technique primitive de l'extase. Le chaman n'est pas un charlatan, en aucun cas. Il ne l'est pas à ses propres yeux, il ne l'est pas aux yeux des autres. Il ne cherche pas à tromper une clientèle. Et si cela était, d'ailleurs, on ne s'expliquerait pas l'expansion et l'importance de ce phénomène.
En fait, non, dès mon plus jeune âge, en fait, c'était pas une chamane, mais bien sûr, ça a fait partie de mon éducation où j'ai été suivi jusqu'à l'âge de mes 10 ans, une guérisseuse, qui parlait aux cristaux, et donc ça a été fondamental dans ma construction, en fait. Voilà, mais non, elle se considérait pas comme telle. Mais c'est elle qui m'a mis sur la voie, en tout cas. Oui, j'ai suivi une formation, avec une école qui s'appelle Nature, Conscience et Chamanisme, qui initie les gens au voyage chamanique. Mais moi, j'avais déjà une expérience spirituelle il y a bien plus longtemps, il y a plus de 8 ans déjà. Et pour moi, ça a été surtout une mise à niveau, en fait, cette formation. Et j'ai mis très longtemps aussi à avoir mon propre tambour, justement pour induire le voyage chamanique. Mais je pense qu'on en parlera après, hein. C'est le sujet. En fait, j'ai une formation en médecine chinoise. Donc mon boulot officiel, c'est praticien en médecine chinoise. Et puis j'ai quand même, avant de faire mes études de médecine chinoise, je me suis considéré déjà comme une sorcière. Donc j'avais déjà une vie spirituelle bien mouvementée, bien remplie. Et j'avais envie de rajouter un peu de poésie comme ça, mystique dans mon travail. Et du coup, j'ai commencé à lire. Beaucoup lire sur le sujet et ça m'a beaucoup parlé et je me suis rendu compte que je pouvais agir sur des choses assez profondes au niveau psychique chez mes patients, notamment sur les traumatismes graves, genre accidents, abus, Et puis j'ai eu beaucoup de résultats aussi, donc ça m'a encouragé à continuer. dans l'Antiquité chinoise, il y avait toute cette partie chamanique, hein, qui n'existe plus du tout en Chine, d'ailleurs. C'est complètement dissocié, hein, l'acupuncture du chamanisme. Quoique parfois, on comprend. Bon, c'est selon certains textes qu'il y a une histoire d'esprit qui peuvent rendre malade. Voilà, on peut retrouver, mais c'est dissocié. Donc, naturellement, moi, je reviens à ça pour me sentir complet dans mon travail. Après, bien sûr, on peut faire des petites parallèles avec l'hypnose. Sauf que l'hypnose, c'est encore aujourd'hui expérimental, en fait. Il y a une sorte d'appropriation de l'outil chamanique, en fait. Et moi, depuis tout gosse, je me suis toujours intéressé à ce qui est ancien. Parce que c'est, comment dire, quelque chose de stable, d'acquis sur des millénaires. Donc, je considère que si ça existe encore, c'est qu'il y a quelque chose d'hyper fondamental, solide. Donc je voulais pas, pour un gain de temps, aller dans l'expérimental et vraiment apprendre des choses complètes. Voilà. Donc, pour moi, l'hypnose, c'est une séparation, c'est une appropriation de l'outil. Et voilà, donc il y a une perte pour moi. On peut retrouver aussi des parallèles avec le rêve lucide. Pareil. Mais c'est pareil, c'est une extraction d'un tout.
You're really unique in the field of anthropology, I suppose, in a sense that you started out as an objective student of shamanism and eventually came out of the closet or transformed yourself into a practitioner.
Well, this sometimes happens to anthropologists that they go native to some degree, and I think it's a respected and revered tradition in the field, but perhaps this is unique that more than going native in a sense, I've decided that some of the things the natives have are very pertinent to our daily life today and badly needed. And so part of the work I'm doing is attempting to bring back shamanism to modern society.
Ben justement, moi j'ai appris la technique élaborée par Arner, qui est un ethnologue qui a consacré 50 ans de sa vie à étudier le chamanisme sur tous les continents. Et il s'est bien rendu compte qu'il y avait quelque chose d'universel, notamment avec l'usage du tambour. Donc il a développé une technique de changement d'état de conscience avec le tambour. Le changement d'état de conscience, c'est la première conséquence, c'est le premier phénomène qu'on étudie en chamanisme. Qu'on va provoquer d'ailleurs. Le tambour est là pour induire le changement d'état de conscience, en fait, par une transe, en fait, hein, par du coup un rythme, une fréquence particulière, avec une fréquence particulière, une vibration. C'est quand même un son très particulier qui pénètre vraiment tout ton corps, qui va complètement couper ton mental en fait. Donc ça va induire naturellement un changement d'état. Et ensuite, il y a une méthode pour vraiment bien tenir cet état, ce switch de l'esprit. Il n'y a pas que le tambour qui induit un changement d'état de conscience, hein. Il y a aussi, tout le monde connaît l'aspect plante hallucinogène que je ne pratique pas. Mais voilà, il n'y a pas que les plantes, il y a aussi la danse, hein. Certains chants. Alors le fest-noz, hein, peut déclencher aussi un changement de conscience. Hein. Beaucoup parlent de ça d'ailleurs, hein. Il se passe quelque chose. Déjà, j'ai commencé par dire que il y avait une histoire de changement d'état de conscience. Voilà, donc on va passer d'une conscience ordinaire à une conscience non ordinaire. Il y a une histoire d'appréhension d'une forme de réalité non ordinaire, du coup. Pour nous, on considère que c'est réel, mais non ordinaire. Et ensuite, le chamanisme, c'est l'art de rentrer en contact avec les esprits. C'est l'art de communiquer avec les esprits. Donc, en chamanisme, on considère qu'il n'y a pas que les défunts. Hein. Dans notre culture occidentale, on considère que c'est que les morts. Mais en fait, non, on considère qu'il y a plein de formes, plein d'entités avec leur propre forme d'intelligence avec lesquelles on peut communiquer. Dans le voyage chamanique, on a besoin quand même d'un guide touristique. Le voyage chamanique, c'est l'art de visiter notre propre cartographie, la cartographie de notre esprit. Hein, c'est comme notre esprit, c'est une sorte de map en plein de dimensions différentes. Et bah, le guide touristique, c'est ce qu'on appelle l'animal totem. On l'appelle aussi animal de pouvoir. Et puis on le retrouve dans plein d'autres cultures différentes avec d'autres noms encore. Voilà. Mais l'animal totem, c'est le premier esprit qu'on va devoir rencontrer pour justement aller plus loin après dans nos voyages.
Qu'est-ce qu'il fait pour invoquer l'esprit? Il était grand comme ça quand il a commencé à faire du chamanisme. Qu'est-ce qu'il fait pour invoquer les esprits? Il absorbe de la drogue.
Et alors, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il fait et à qui parle-t-il?
Il dit quand il est sous l'empire de la drogue, il peut les voir, les esprits, et il peut les appeler.
Alors en fait, c'est safe, c'est extrêmement dangereux avec les plantes, puisque là, il y a une perte totale de contrôle, c'est l'esprit de la plante qui t'emmène dans une expérience, mais si tu connais même pas ton animal totem, ça peut être absolument néfaste. En fait, l'esprit, hein, c'est une peau, c'est un organe, c'est quelque chose qui peut se casser. Hein, je vois ça au cabinet, hein, avec des schizophrénies qui se déclarent après beaucoup de prises de LSD, de cannabis, par exemple. C'est des produits, hein, qui emmènent très loin et qui peuvent fracturer l'esprit. Voilà. En chamanisme, du coup, en voyant les choses ainsi, on peut réparer. Mais c'est un long, long boulot à faire, hein, d'ailleurs. Et du coup, c'est là qu'on peut parler de la santé mentale. La folie en chamanisme, c'est juste le fait de ne plus dissocier la conscience ordinaire, l'état de conscience ordinaire et non ordinaire. C'est quand tu peux plus faire la différence. Là, on est dans la folie, dans la maladie. Mais avec le tambour, il n'y a aucun danger, en fait. Puisque quand le tambour s'arrête, même en plein voyage, tu peux revenir dans un état de conscience ordinaire. Donc il n'y a pas de violence qu'on inflige à son esprit.
Est-ce qu'il y a des esprits qu'il aime et des esprits qu'il craint?
Il
dit oui, je les crains parce qu'il y en a qui sont très méchants, qui sont très féroces.
Qu'est-ce qu'on peut obtenir des esprits?
Il dit qu'il peut les combattre et aussi qu'il peut les utiliser pour soigner les malades.
Likong Mi, jeune chaman récemment initié, chasse les esprits qui se sont emparés de l'œil d'un enfant.
Pour les soins, il y a des esprits particuliers qui vont soutenir le chaman dans son travail. Moi, j'ai découvert le chamanisme comme ça, ce qu'on appelle le recouvrement d'âme. Donc en fait, on considère que notre âme se fractionne en plusieurs pièces quand on vit quelque chose de difficile. Donc le travail du chaman ou le travail qu'on va faire sur soi va consister à aller chercher tous ces bouts de nous qui existent éparpillés dans l'invisible, dans notre passé ou dans des lieux particuliers. Ce qui est hyper intéressant au chamanisme, c'est que le temps et l'espace ont carrément d'autres valeurs. On n'est plus du tout dans la physique, mais pour le temps et l'espace, ça a quand même une forme de réalité. On peut remonter dans le temps, voyager dans le temps en fait, hein, très très facilement, rapidement, en prenant les bons chemins. Voilà, on peut se retrouver dans les maisons où on a vécu, on peut tout retrouver, on peut retoucher les murs, c'est assez fou. C'est l'art de récupérer nos plumes.
The shaman is a kind of medicine person, but there are some very specific characteristics that one should note. The shaman goes into an altered state of consciousness when doing his or her work, either men or women, maybe shamans. And this is often brought on by monotonous drumming. The shaman is a person who makes journeys. You might call them out-of-body journeys, to use current terminology, but they're or journeys of the imagination, if you will, though many of us think there's more to it than that, to an upper world, to a lower world, here in the middle world. And these journeys are done for very practical purposes, such as to gain knowledge. Shamans are often called persons of knowledge. And they work to help solve problems in their community, healing and other problems of daily life.
En chamanisme, on considère de manière universelle, quand on étudie toutes les cultures différentes, qu'il y a trois plans dans les mondes chamaniques. Donc il y a le monde du bas, le monde du milieu et le monde du haut. Et donc bien sûr, dans ces différents domaines, on va rencontrer différents esprits. Donc en général, dans le monde du milieu, on va retrouver facilement des défunts. D'ailleurs, c'est l'endroit le moins safe, le plus perturbant. C'est le seul endroit où on peut retrouver des choses pas top, comme des résidus d'émotions pas top. C'est là qu'on peut retrouver tout ce qui est gnome, tout ce qui est petit troll, corrigan, tiens, c'est pour rester dans la Bretagne. C'est très monde du milieu, mais on voit que, par exemple, les corrigans, ils sont aussi liés au monde du bar. Hein, ils ont des petits tunnels déjà, donc on peut rentrer dedans, nous aussi, d'ailleurs. Quand on va dans le monde du bas, on retrouve beaucoup d'esprits type animaux quand même. On peut retrouver des humanoïdes. Dans le monde du bas, les esprits par contre adorent nous rendre service, ils ne demandent pas de choses en échange par exemple. Tout ce qui est pacte, tout ce qui est contrepartie, tout ce qui est intérêt, ça c'est monde du milieu typique. On ne retrouve pas ça dans le monde du bas, ni dans le monde du haut. Dans le monde du haut, on va retrouver des esprits plutôt humanoïdes type même des divinités, des trucs assez badass. Même des archétypes, on peut retrouver des personnages même de films qu'on a aimés. Ça peut être assez perturbant d'ailleurs, mais c'est juste qu'ils représentent quelque chose. Après, ce qu'on va voir dans nos voyages, c'est souvent des choses qu'on peut reconnaître. Hein. C'est jamais des choses qu'on a du mal à identifier. Et puis surtout, quand on est en bien avec notre animal totem, il va nous faire vivre des expériences qu'on est capable d'endurer et de comprendre. C'est lui qui va nous infuser tout ce qu'on peut encaisser pour travailler sur soi, dénouer des choses. Oui, en fait, quand on apprend, on fait au moins 5 voyages dans l'après-midi. Et l'objectif premier, c'est de rencontrer l'animal totem. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fin de voyage, on raconte 5 fois ce qu'on a vécu. Voilà. À chaque fois que le voyage se termine, il y a un moment de parole où en fait, tout le monde parle de son voyage. En fait, comme le mental n'opère plus pendant le voyage, il faut verbaliser pour mettre en relief ce qu'on a vécu. Et c'est là qu'on peut commencer à analyser, à comprendre le voyage. Mais quand on est en plein dedans, on est dans l'expérience la plus totale, il n'y a pas d'analyse. On peut pas. Dès qu'on se met à analyser notre voyage, il s'arrête en fait. On ne peut pas voyager en analysant, c'est impossible.
on est immédiatement emporté, comme par un espèce de courant, par un torrent, vous savez. On ne peut même pas réfléchir, ça ne se passe plus au niveau de l'intellect. Et c'est ça qui est très important, parce que les gens qui sont pris dans la cérémonie, eux aussi, ne peuvent plus réfléchir. Ça se passe au niveau du diaphragme, au niveau du plexus solaire. Vous êtes noué, vous êtes pris, vous ressentez des forces terribles qui passent autour de vous, c'est indiscutable. À la fin de chaque tournage, j'étais littéralement épuisé, mais pas parce que j'avais tourné, pas parce que je m'étais fatigué à me mettre dans toutes les positions les plus invraisemblables, mais parce que il y avait eu autour de moi un ensemble de forces, de puissances magnétiques, on peut les appeler par n'importe quel nom, mais je les avais ressenties, je les avais enregistrées comme un compteur Geiger, si vous voulez. Et alors ça, c'est vraiment viscéral et profond. On est donc emporté par un courant, et puis on est soi-même presque dans un état second. On regarde les choses, on passe d'une chose à l'autre. On est étonné, stupéfait, abasourdi. On n'arrive pas à y croire. Et pourtant, on y croit, on est là. Et on palpe les choses, on les voit, on les sent, on les ressent profondément.
La mémoire fonctionne très très bien pendant les voyages chamaniques. D'ailleurs, c'est ce qui explique que la mémoire n'est pas stockée que dans ton corps. Hein. D'ailleurs, ça a été, même scientifiquement, prouvé il y a un ou deux ans d'ailleurs, ce qui a perturbé énormément le monde scientifique, et ça a carrément développé des champs de recherche sur notamment la conscience humaine, hein, c'est passionnant, et du coup on voit d'ailleurs une séparation énorme parmi les scientifiques à ce niveau-là. C'est très drôle à voir, à observer. On n'est pas loin, on est dans un état de rêve, en fait. Mais la grande différence, c'est qu'on se souvient très très bien de notre expérience chamanique, de nos voyages. Encore aujourd'hui, je peux te parler de certains voyages que j'ai pu faire, où je vois encore, je ressens encore, hein, tout. Voilà, la mémoire n'est pas du tout altérée, au contraire, on se souvient très bien. En fait, il n'y a pas que l'animal totem, il y a aussi les esprits alliés. Hein, en fin de carrière, les vieux chamans, ils ont plus d'une centaine d'esprits avec une fonction particulière. Il y a beaucoup de monde qu'on rencontre dans le voyage chamanique. Je sais pas moi, une de mes profs, elle avait un écureuil pour retrouver des objets perdus. Moi, j'en ai un pour retrouver des choses aussi. J'ai un esprit particulier pour me faufiler dans les foules, pour être super agile. Voilà, on peut même fusionner avec eux. Enfin, c'est carrément du spiritual hacking. On peut se hacker, se faire du tuning en chamanisme en rencontrant ces esprits alliés. Il n'y a pas que l'animal totem. L'animal totem, il nous met en lien avec tout ce qui existe dans le monde invisible. Voilà.
Chez les chamans, il n'y a pas de hiérarchie. Il peut exister de grands chamans, des chamans plus prestigieux que les autres, mais en fait, ils dépendent tellement, ils sont tellement les créatures de leurs esprits auxiliaires qu'ils dépendent très étroitement de la puissance et de l'astuce de ces esprits auxiliaires. Et par conséquent, il n'existe pas une église chamanique, il n'existe pas un clergé chamanique, il n'existe pas une hiérarchie de chamans.
L'extraction, donc enlever quelque chose que moi je ne pratique pas, puisque je considère que voilà, s'il y a un conflit à l'intérieur, il faut juste aller le voir, il ne faut pas chercher à enlever tout, après il n'y a plus rien. Hein. Donc moi je ne suis pas partisan de l'extraction chamanique, au contraire, je suis plutôt dans la rencontre, le fait de se sentir complet avec toutes nos composantes, voilà, apprécier toutes nos composantes, faire la paix avec tout ce qui existe. Voilà, plutôt, voilà, moi je suis plutôt dans la récupération des choses même. Aussi, on retrouve beaucoup de bibliothèques. Il y a beaucoup de bibliothèques. Je fais exprès en plus de quand mes élèves sont en train d'apprendre à voyager, à pas trop donner de détails. Et ce qui est fascinant, c'est que à chaque fois, c'est toujours, il y a toujours une constante. Donc dans le monde du haut, c'est souvent cristallin, blanc, souvent des châteaux. Il y a souvent des, bah, voilà, des entités, des sortes de divinités. Des bibliothèques, des châteaux, d'ailleurs château dans le ciel, c'est très mondiaux. Et c'est d'ailleurs, on appelle ça aussi en Occident, quand on veut tout extraire, dans le New Age, ce que j'aime pas trop, on retrouve là, ce qu'on appelle la bibliothèque akashique. Donc c'est un peu la conscience du monde, tu as accès à toutes les informations. Après c'est très difficile d'arriver à lire des livres dans le mondiaux. En général les gens arrivent à ramener quelques mots, des bribes de mots, parfois en langue étrangère, ce qui est assez dingue. Même des langues qu'on parle pas. Hein. En fait, la grande différence entre le voyage chamanique et le rêve lucide, c'est que quand on fait un voyage chamanique, on démarre avec une intention. Il n'y a jamais de voyage sans intention. C'est impossible, c'est possible si, mais on sera dans l'errance et on aura rarement un résultat. Donc il y a toujours un objectif. Et je me rappelle que voilà, une de mes élèves avait fait un voyage au monde du haut avec l'objectif de régler des soucis avec des potes qu'elle avait, voilà. Et elle va dans le monde du haut, elle se retrouve dans une bibliothèque, il y a un esprit qui lui montre un livre, qui s'ouvre tout seul, et il y avait une phrase en latin. Et elle avait eu beaucoup de mal à réussir à lire, et puis finalement, ça y est, elle l'avait bien lu. Elle revient dans un état de conscience ordinaire. Elle se dit, mais je parle pas latin, voilà, c'est une phrase. Bon. Et en fait, t'as l'outil sur Google Translate pour traduire, et il y a le latin aussi dedans. Et en fait, ça voulait dire quelque chose, ça voulait dire ne t'interpose pas. Et du coup, voilà, c'était assez. J'ai plein d'anecdotes comme ça. Mais c'était assez fou parce qu'elle parle pas latin. Et moi non plus, bref. Et on est resté con, du coup voilà, les esprits ont bien insisté sur ça, hein. Là c'était bien net la réponse. Je me rappelle revenir, je sais pas moi, dans ma maison d'enfance, assister à une scène assez traumatisante, où j'avais 2 ans, et en fait j'ai appris des choses sur mon passé en en parlant avec ma mère dont elle avait jamais eu, en fait. Je vais pas rentrer dans les détails, mais donc ça m'a permis de permettre même à des gens de ma famille de verbaliser des choses, en fait. Pareil, j'ai eu des élèves qui sont musiciens et qui sont revenus dans le monde ordinaire avec des mélodies comme ça, on ne sait pas d'où ça sort, qu'ils ont joué, ils préparaient des concours à l'époque, je crois, de je sais plus quoi, et en fait ils ont terminé major de promo en jouant justement cette mélodie. Il y a aussi beaucoup de synchronicité qui se mettent en place quand tu rencontres ton animal totem. Je me rappelle d'un élève, qui rencontre, on avait fait beaucoup de voyages, on avait fait 7 voyages, et puis là, les derniers voyages avaient été absolument dingues. Et en fait, il rentre dans sa voiture pour rentrer chez lui, il allume la radio, ça parlait de cet animal-là. si vous devez passer chez une pote qui avait le National Geographic, en fait, c'était cet animal en plein en couverture. Ce qui rentre chez ses parents le même soir, la télé est allumée, bim, un reportage sur cet animal. Voilà, ça c'est hyper courant.
Et c'est extrêmement émouvant de penser que la condition humaine, dans tout ce qu'elle a de limité, a été dépassée. Il existe une philosophie chamanique que j'ai essayé de vous montrer tout à l'heure, où les temps humains, le temps que nous avons l'habitude de voir s'écouler, avec les saisons, avec tout ce que nous pouvons appréhender, les distances, les volumes, etc., sont considérés comme seulement un aspect d'une réalité beaucoup plus riche qui va au-delà, où il existe d'autres temps, d'autres espaces, d'autres... Et alors là, il est extrêmement important de déshabiller notre rationalité, notre rationalisme qui pervertit un petit peu la portée, le sens de tous ces phénomènes-là. Encore une fois, on ne peut pas les comprendre si l'on n'est pas très profondément imprégné du sérieux de ces phénomènes pour la population qui les vit et du caractère très intense de la participation de ces gens-là à ces manifestations.